Une fois encore, le drame commence. L'empereur Paul Mouad-Dib, lors de son accession au trône du Lion. De sa fenêtre dissimulée, Alia observait la vaste salle d'audience où la délégation de la guilde venait de faire son entrée. La lumière de midi tombait en pluie argentée, incandescente, sur le sol de la mosaïque ocre, vert et bleu qui figurait un bayou. De loin en loin, entre les plantes aquatiques, une tache de couleur évoquait un oiseau ou un animal. Sur ce sol paysage, les envoyés de la guilde progressaient comme des chasseurs dans une jungle. Leurs silhouettes en robes noires, grises et oranges entouraient dans un désordre trompeur la cuve transparente où le navigateur ambassadeur flottait dans son gaz orangé. La cuve glissait sur un champ de dégravitation tiré par deux serviteurs en gris. Lentement, elle traversait la salle comme un étrange vaisseau cubique venant à l'amarrage. Juste en dessous de la fenêtre Judas d'où Alia observait la scène, Paul avait pris place sur le trône du lion. Il portait la nouvelle couronne de cérémonie, à l'emblème du poisson et du poing, et avait revêtu la grande robe dorée des affaires d'État. Autour de lui, un faible scintillement indiquait la présence d'un bouclier personnel. Deux rangs de gardes avaient pris place de part et d'autre de la salle, le long des dais et au bas des marches. Stilgar se tenait à la droite de Paul, à deux marches au-dessous du trône, drapé dans une robe blanche à ceinture jaune. Empathiquement, Alia devina que Paul ressentait la même agitation qu'elle en cet instant. Mais très certainement, nul autre n'aurait pu s'en apercevoir. Paul avait le regard fixé sur un serviteur vêtu d'orange qui se tenait à droite de la délégation, comme un garde du corps. Son visage aux traits plats, ses cheveux noirs et bouclés, tout était familier, tout criait son identité. Duncan Idaho. Ce ne pouvait être lui, et pourtant c'était lui. Pour Alia, enrichi des mémoires absorbées dans la matrice, il suffit d'un décryptage Riani pour triompher de l'apparence, du camouflage. Alors que Paul, elle le savait, continuait de le voir avec les yeux des souvenirs innombrables, de la jeunesse, de la reconnaissance. C'était Duncan Idaho. Alia haussa les épaules. Il ne pouvait y avoir qu'une seule réponse. Cet être était un Golat Leilaxu, reconstitué à partir de la chair morte de l'original. Le véritable Duncan était mort en sauvant Paul. Cet être n'était qu'un produit des cuves Axlotl. Le Gola avait la démarche alerte et vigilante d'un maître bretteur. Il s'arrêta en même temps que la cuve de l'ambassadeur, à une dizaine de pas du dé impérial. Ses sens Bene Gesserit, auxquels elle devait se soumettre, révélaient à Alia l'inquiétude de Paul. Tout soudain, il ne regardait plus l'être avec les yeux du passé. Tout son corps était en éveil, observait. Tous ses muscles étaient prêts à réagir tandis qu'il inclinait la tête à l'adresse de l'ambassadeur et déclarait « On me dit que votre nom est Edric. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre cour et espérons que votre présence aidera à notre mutuelle compréhension. » Le navigateur prit une attitude de sybarite dans son atmosphère orange, glissa une capsule de mélange dans sa bouche et daigna rencontrer le regard de Paul. Le minuscule transducteur qui flottait en orbite à proximité de la cuve reproduisit une sorte de toux, puis une voix rauque, impersonnelle, se fit entendre. « Je m'incline devant mon empereur et le prie d'accepter mes lettres de créance ainsi qu'un modeste présent. » Un assistant s'approcha de Stilgar et lui remit un rouleau qu'il étudia, les sourcils froncés, avant de le tendre à Paul. Tous deux se tournèrent alors vers le Gola qui attendait patiemment devant le dais. « Il est évident que mon empereur a deviné la nature du présent, » dit Edric. « Nous sommes heureux d'accepter vos créances, » dit Paul. « Veuillez nous éclairer quant à ce présent. » Edric pivota dans sa cuve et porta son attention sur le Gola. « Cet homme que voici se nomme Hate, » dit-il, et il épela le nom. Selon nos enquêteurs, il a vécu une bien curieuse histoire. Il a été tué ici, sur Arrakis. Sa blessure à la tête était particulièrement grave et elle a exigé de nombreux mois de régénération. Son corps fut vendu au Bene Tleilax comme étant celui d'un grand homme de guerre, un élève de l'école Ginza. Il nous est apparu qu'il pouvait s'agir en fait de Duncan Idaho, le loyal gardien de votre demeure. Nous l'avons acheté, considérant que c'était là un présent signe d'un empereur. Edric regarda Paul. N'est-ce pas Duncan Idaho, sire? La méfiance et la réserve perçaient dans la voix de Paul. Il en a l'apparence. Paul voit-il quelque chose que je n'ai pas vu? Se demanda Alia. Non, c'est Duncan. L'homme qui portait le nom de Haight demeurait impassible. Ses yeux métalliques regardaient droit devant lui, son port était calme. Il ne révélait par aucun signe qu'il eût conscience d'être le sujet de la discussion. Nos renseignements les plus certains nous inclinent à croire qu'il s'agit d'Idaho, dit Edric. Il s'appelle Haight à présent, dit Paul. Un curieux nom. Sire, il ne sert à rien de deviner pourquoi ou comment les Tleilaxu choisissent leur nom. Ils peuvent être changés. Les noms Tleilaxu n'ont que peu d'importance. Une créature Tleilaxu, songeait Paul. Là est le problème. Le Bene Tleilax n'avait que peu de rapport avec la nature. Dans sa philosophie, le bien et le mal avaient d'autres valeurs, très étranges. Les Tleilaxu avaient-ils inséré quelque chose dans la chair d'Idaho, à dessein ou par jeu? Paul jeta un coup d'œil à Stilgar. L'émotion superstitieuse du Fremen était visible, de même que celle de tous les gardes Fremen présents. Stilgar devait se remémorer tout ce qu'il connaissait des atroces usages des gens de la guilde, des Tleilaxu et des Gola. Se tournant vers le Gola, Paul demanda « Haight, est-ce là ton seul nom ?» Un sourire paisible apparut sur le visage sombre du Gola. Les yeux métalliques se levèrent, se posèrent sur Paul. Il n'y avait aucune émotion en eux. C'est ainsi que l'on m'appelle, monseigneur. Haight. Dans sa cachette, Alia frémit. La voix était exactement celle d'Idaho. Si exactement que chacune de ses cellules avait réagi aux paroles du Gola. S'il plaît à monseigneur, reprit le Gola, je lui dirai que sa voix me procure du plaisir. Selon le Bene Tleilax, cela signifie que je l'ai déjà entendu. Avant. Mais tu n'en es pas certain, dit Paul. Je ne sais rien de mon passé, monseigneur. On m'a expliqué que je ne puis garder aucun souvenir de mon existence première. Tout ce qui en subsiste est le schéma génétique. Il existe, cependant, certains recoins qui peuvent correspondre à des choses autrefois familières. Il y a ainsi des voix, des lieux, des mets, des visages, des actes, une épée dans ma main, les commandes d'un ornithoptère. Tout en remarquant l'intensité avec laquelle le navigateur les observait, Paul demanda « Comprends-tu que tu constitues un présent ?»« On me l'a expliqué, monseigneur. » Paul posa les mains sur les accoudoirs du trône. « Quelle est ma dette envers la chair morte de Duncan Idaho ?» se demanda-t-il. « Il est mort en me sauvant. Mais cette créature n'est pas Duncan. C'est un Gola. » Pourtant, ce corps, cet esprit, avait appris au jeune Paul à piloter un orni jusqu'à ce qu'il ait l'impression que les grandes ailes étaient fixées dans son dos. Et il ne pouvait brandir une épée sans se rappeler les dures leçons de Duncan. Un Gola. Une chair pleine d'impressions fausses, susceptible d'erreurs d'interprétation. Les associations avec le passé persisteraient. Duncan, Idaho. Ce n'était pas tellement un masque que portait ce Gola, mais bien plutôt une sorte de voile. Un déguisement de la personnalité différent de ce que les Tleilaxu avaient pu dissimuler en lui. Comment pourrais-tu nous servir? Demanda Paul. De toutes les façons qui conviendront à monseigneur en s'accordant à mes capacités. Alia fut frappée par l'expression docile du Gola. Il n'y avait là rien de simulé. Il émanait de ce nouvel Idaho quelque chose de totalement innocent. L'ancien Duncan avait été réaliste, fataliste. Il ne restait rien de ses particularités chez le Gola. Sa chair avait été comme lavée. C'était une surface neuve, vierge, sur laquelle les Tleilaxu avaient écrit. Mais qu'avait-il donc écrit? Elle décelait à présent les dangers dont ce présent pouvait être porteur. Ce gola était une créature Tleilaxu. Les Tleilaxu faisaient montre d'une étonnante absence d'inhibition dans leur création. Leurs actes pouvaient n'être dirigés que par une curiosité sans limite. Ils prétendaient pouvoir construire n'importe quoi à partir d'un matériau humain brut adéquat, des démons ou des saints. Ils vendaient des mentat tueurs. Ils avaient réussi à obtenir un médic assassin qui n'était pas asservi aux inhibitions de l'école souk qui interdisait d'ôter la vie. Sur demande, ils pouvaient fournir des domestiques zélés, des jouets érotiques pour tous les goûts, des soldats, des généraux, des philosophes et même à l'occasion, un moraliste. Paul regarda Edric et demanda « Quelle éducation ce présent a-t-il reçu ?»« S'il plaît à monseigneur, il a plu au Tleilaxu de faire de ce gola un mentat et un philosophe du Zensuni, pensant améliorer encore son habileté à l'épée. Ont-ils réussi ?»«
Je l'ignore, monseigneur. »
Paul réfléchit à cette réponse. Son instinct de vérité lui disait qu'Edric croyait sincèrement que le gola était Idaho. Mais il y avait autre chose. Les eaux du temps au sein desquelles se déplaçait le navigateur portaient bien des dangers non révélés. Hate. Ce nom Tleilaxu avait des résonances de danger. Paul était sur le point de refuser le présent, mais dans le même instant, il savait bien que c'était là une attitude impossible. Cette chair avait des droits sur la maison des Atreides. Et cela, l'ennemi le savait bien. Un philosophe Zensuni, dit Paul en regardant à nouveau le gola. Tu as donc réfléchi à ton rôle et à tes motivations?
J'ai, à l'égard de mon service, une attitude d'humilité, sire. Mon esprit a été lavé de tous les impératifs de mon passé d'humain.
Comment préférerais-tu que nous t'appelions? Hate ou bien Duncan Idaho?
Monseigneur fera selon son désir, car je ne suis pas un nom.
Mais le nom de Duncan Idaho éveille en toi du plaisir?
Je crois que c'était le mien, sire. Il a sa place en moi.
Pourtant, il éveille aussi de curieuses résonances. Mais un nom, je pense, doit porter en lui autant de plaisir que d'écho déplaisant. Et qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir?
Le gola eut un rire inattendu.
De découvrir chez autrui des signes susceptibles de révéler mon passé.
En vois-tu dans cette demeure?
Oh oui, monseigneur. Stilgar, ici présent, est partagé entre la suspicion et l'admiration. Il fut mon ami dans mon existence passée, mais à présent cette chair de gola lui répugne. Et vous, monseigneur, vous admiriez l'homme que je fus, et vous lui accordiez votre confiance?
Un esprit lavé, dit Paul. Mais comment un esprit lavé pourrait-il nous prêter allégeance?
Allégeance, monseigneur? L'esprit lavé prend ses décisions en présence d'inconnus, sans cause ni effet.
Est-ce bien une allégeance?
Paul fronça les sourcils.
C'était une réponse Zensuni. Subtile, cryptique, issue d'un credo selon lequel l'activité mentale ne pouvait avoir de fonction objective. Ni cause, ni effet. De tels concepts étaient déconcertants pour l'esprit. Des inconnus. Il y en avait dans toute décision. Il y en avait même dans les visions prescientes.
Préférerais-tu répondre au nom de Duncan Idaho? Demanda Paul.
Nous vivons selon nos différences, monseigneur. Choisissez un nom pour moi.
Garde celui que t'ont donné les Tleilaxu.
Hate. Un nom qui suscite la méfiance.
Hate s'inclina et fit un pas en arrière. Comment sait-il que l'entrevue est terminée? Se demanda Alia.
Je le sais, moi, parce que je connais mon frère. Mais un étranger ne pouvait le savoir, à aucun signe. À moins que le Duncan Idaho qui est en lui ne l'ait su.
Paul se tourna vers l'ambassadeur. Des appartements ont été préparés pour votre suite. Il nous plairait d'avoir un entretien privé avec vous dès que cela nous sera possible. Nous vous ferons mander. Laissez-nous cependant vous apprendre, avant que vous en soyez informé par quelque source étrangère, que la révérende mère Gaius Hélène Mohayam, sœur du Bene Gesserit, a été arrêtée à bord du long courrier qui vous a conduit ici, et sur notre ordre.
Nous discuterons de sa présence à bord de votre navire dans nos prochains entretiens. »
D'un geste, Paul donna congé au navigateur.
« Que Haight demeure auprès de nous. »
Les serviteurs se mirent en mouvement et la cuve s'éloigna lentement du dé impérial. Paul suivit du regard la silhouette orange dérivant dans sa brume orange jusqu'à ce que les hautes portes se soient refermées. Il songeait « Je l'ai fait. J'ai accepté le Gola. »
Sans nul doute, c'était un appât clé Laxu, de même que cette vieille sorcière de révérende mère, probablement.
Mais le temps était venu, le temps du redoutable tarot entrevu lors de ses premières visions. Le tarot qui troublait les eaux du temps jusqu'à ce que le prescient le plus clairvoyant ne puisse rien entrevoir à plus d'une heure dans l'avenir. Souvent, se dit-il, le poisson prenait l'appât, mais échappait au pêcheur. Et le tarot pouvait se révéler à son avantage. Ce qu'il ne pouvait voir ne pouvait être vu par d'autres.
Le Gola attendait, immobile, la tête penchée. Stilgar escalada les marches et se pencha sur Paul. En Tchakopsa, le dialecte de chasse des anciens jours du Sietch, il souffla
« Sire, cette créature qui nageait dans sa cuve m'a fait horreur. Mais ce présent, il faut le renvoyer, sire.
Je ne peux pas.
Idaho est mort, sire. Cet être n'est pas Idaho. Laissez-moi prendre son eau.
Le Gola est mon problème, Steel. Tu dois t'occuper de notre prisonnière. Je veux que la révérende mère soit gardée avec la plus extrême vigilance par ceux de nos hommes qui ont été formés à résister aux artifices de la voix.
Tout ceci me déplaît, sire.
Je serai prudent, Steel.
Sois-le également. Très bien, sire.
Stilgar redescendit les marches, passa à côté de Haight avec un reniflement et quitta la salle.
On peut reconnaître le mal à son odeur, songea Paul. Stilgar avait planté la bannière vert et blanc des Atréides sur plus de 12 mondes, mais il demeurait un Fremen superstitieux, imperméable à toute sophistication. Paul regarda le Gola, le présent du Bene Tleilax.
Duncan. Duncan, murmura-t-il. Que t'ont-ils fait?
Ils m'ont donné la vie, monseigneur, dit Haight.
Mais dans quel but ont-ils formé et offert? Afin que je vous détruise. La franchise de la réponse surprit Paul. Mais un mentat du Zensuni ne pouvait s'exprimer différemment. Même s'il était un Gola, il ne pouvait que dire la vérité. La vérité nourrie de la sérénité intérieure du Zensuni. Paul avait devant lui un ordinateur humain dont l'esprit et le système nerveux pouvaient assumer les fonctions complexes qui, jadis, eussent été dévolues aux mécaniques que l'humanité avait bannies. Mentat et Zensuni. Les Tleilaxu avaient été doublement honnêtes. Ou alors ils avaient dissimulé dans ce Gola quelque chose de plus étrange encore. Pourquoi, par exemple, était-il doté d'yeux mécaniques? Bien sûr, les Tleilaxu étaient fiers de ses yeux de métal, qui, prétendait-il, étaient supérieurs aux vrais. Mais on pouvait se demander pourquoi ils n'en portaient pas eux-mêmes. Paul jeta un bref regard en direction de la fenêtre où se cachait Alia. En cet instant, il souhaitait sa présence. Ses conseils, libres de l'entrave des responsabilités et du doute.
Il revint au Gola. Le présent des Tleilaxu n'avait rien de frivole. Il donnait des réponses honnêtes à des questions dangereuses.
Cela ne fait aucune différence que je sache qu'il constitue une arme conçue pour me frapper, se dit-il.
Que faudrait-il que je fasse pour me protéger? Demanda-t-il, renonçant au nous royal pour poser la question ainsi qu'il l'eût posée à Duncan Idaho.
Me renvoyer, sire.
Il secoua la tête.
Comment entends-tu me détruire? Haight posa le regard de ses yeux de métal sur les gardes qui s'étaient rapprochés du trône après le départ de Stilgar. Il examina la salle, puis regarda de nouveau Paul en hochant la tête.
Voici un lieu où un homme se retire à l'abri du peuple. Un lieu empreint d'une telle puissance que l'on ne saurait le contempler sereinement qu'en se souvenant que toute chose est limitée. Les pouvoirs prophétiques de Monseigneur lui avaient-ils révélé son séjour ici?
Paul tambourina des doigts sur les accoudoirs du trône.
Le mentat était en quête d'informations, mais sa question le troublait.
J'ai acquis cette position par des décisions fermes, et non pas forcément par mes autres facultés.
Les décisions fermes, dit Haight. Voilà qui trempe l'existence d'un homme. On peut supprimer la trempe d'un métal noble en le chauffant, puis en le laissant refroidir sans le plonger dans l'eau.
Essaies-tu de me distraire par ce bavardage Zensuni?
Les Zensuni, sire, ont bien d'autres chemins à explorer que ceux de la diversion et du spectacle.
Paul sumecta les lèvres, inspira profondément et ajusta ses pensées selon l'équilibre mentat. Des réponses négatives lui apparaissaient.
Les Tleilaxu ne devaient pas s'attendre à ce qu'il se passionne pour le Gola en délaissant tous ses devoirs.
Non.
Mais pourquoi en avait-il fait un mentat Zensuni? Une philosophie, des mots, une forme de contemplation, de quête intérieure.
Il avait conscience de la faiblesse des données dont il disposait.
Nous avons besoin d'informations, murmura-t-il.
Les faits qui sont nécessaires à un mentat ne se déposent pas sur lui ainsi que le pollen sur votre robe lorsque vous traversez un champ de fleurs, dit Haight. Il doit choisir chaque grain avec soin et prudence et l'examiner sous un grossissement énorme.
Il faudra que tu m'enseignes cet art Zensuni de la rhétorique, dit Paul.
Durant un bref instant, les yeux métalliques se firent plus brillants.
Puis, Monseigneur, dit enfin Haight, peut-être désirait-on qu'il en fût ainsi.
Pour que des mots, des idées viennent m'émousser, se dit Paul.
C'est lorsqu'elles deviennent action qu'il convient de redouter les idées, dit-il.
Renvoyez-moi, sire, dit Haight.
Et il y avait dans sa voix la note d'inquiétude et de sollicitude du vieux Duncan pour le jeune maître.
Et Paul se sentit pris au piège de cette voix familière. Il ne pourrait plus s'en débarrasser, même sachant que c'était un Gola qui parlait.
« Tu resteras, » dit-il lentement.
« Et ensemble, nous demeurerons sur nos gardes. »
Haight s'inclina. Paul leva les yeux vers la fenêtre derrière laquelle sa sœur observait, la suppliant en silence de lui arracher ce présent des Tleilaxu pour lui faire avouer ses secrets. Les Gola étaient des fantômes qui faisaient peur aux enfants. Jamais il n'avait pensé en connaître un durant son existence. Avec celui-ci, il lui faudrait s'élever au-dessus de toute comparaison, et il n'était pas certain qu'il en serait capable.
Duncan, Duncan. Où était Duncan dans ce corps de chair?
Le véritable Idaho était étendu mort à jamais sur le sol d'une caverne d'Arrakis. En cet instant, seul son fantôme regardait par les yeux de métal du Gola.
Dans ce revenant, cette imitation, deux êtres cohabitaient.
L'un d'eux était une menace dont la nature et la puissance se dissimulaient derrière des voiles sans pareil. Fermant les yeux, Paul laissa des visions anciennes se glisser en son esprit, au sein d'une mer houleuse, où les essences de l'amour et de la haine se mêlaient.
Une mer d'où n'émergeait aucun rocher, aucun récif.
Un lieu de chaos sans point fixe.
Pourquoi aucune de mes visions ne m'a-t-elle jamais montré ce nouveau Duncan Idaho? Qu'est-ce qui me cachait l'oracle?
D'autres oracles, bien sûr. Il rouvrit les yeux. Haight, as-tu le don de prescience?
Non, monseigneur.
La voix avait l'accent de la sincérité. Pourtant, il était possible que le Gola ignorât ses capacités. Mais ses fonctions de mentat en seraient altérées.
Qu'y avait-il derrière ceci?
Devrait-il choisir le but terrible? Se demanda Paul.
Dans cet avenir hideux, le temps déformé rejoignait ce Gola.
Était-il condamné à suivre ce chemin, quoi qu'il fît?
Retire-toi. Retire-toi.
La pensée était comme un glas dans son esprit. Alia, le menton dans ses mains croisées, ne quittait pas le Gola des yeux. Il émanait de lui une sorte d'attrait magnétique qu'elle percevait seulement à présent. Les Tleilaxu, en le faisant revivre, lui avaient donné la jeunesse, une pulsation, une innocence qui l'attirait.
Elle avait compris la supplique silencieuse de Paul. Lorsque les oracles se révèlent vains, on se tourne vers les espions et les pouvoirs physiques. Mais elle était prête, autant que lui, à accepter ce défi. Bien plus, elle éprouvait le désir de vivre auprès de cet homme nouveau, de le toucher peut-être. « Pour moi autant que pour Paul, cet homme est un danger », pensa-t-elle.